Chapitre 77. Beverly Hills, samedi 20 juin 1981. Tony Harrod se félicitait d'avoir survécu. Lorsque cette salope de négresse l'avait attaqué sans raison, il avait bien cru que sa chance avait tourné. Il lui avait fallu une demi-heure pour se remettre, et il avait passé le reste de cette nuit de folie à éviter des groupes de gardes qui avaient tendance à tirer sur tout ce qui bougeait. Il s'était dirigé vers l'aéroport, espérant pouvoir quitter l'île à bord de l'avion privé de Willie ou de Sutter, mais il s'était hâté de regagner l'abri de la forêt en découvrant le feu de joie qui avait envahi la piste. Il passa plusieurs heures dissimulé sous un lit dans un des bungalows du camp d'été, non loin de l'amphithéâtre. À un moment, quelques gardes y entrèrent par effraction, pillèrent la cuisine et le salon en quête d'alcool et d'objets de valeur, s'attardèrent quelques minutes pour jouer au poker, puis regagnèrent leur détachement d'une démarche chancelante. Ce fut grâce à eux que Harrod apprit que Barent était à bord de l'Antoinette lorsque le yacht avait été détruit. Le ciel s'éclaircissait à l'est lorsqu'il sortit de sa cachette et prit le chemin des quais. Quatre hors-bord y étaient amarrés, et il réussit à faire démarrer l'un d'eux, un bolide long de 4 mètres, grâce à des talents acquis lors de sa période de délinquance à Chicago. Un garde qui cuvait son vin à l'ombre d'un chêne vert tira dans sa direction à 2 reprises, mais il était déjà à 800 mètres du rivage, et personne ne se lança à sa poursuite. Il savait que Dolman Island n'était qu'à 30 kilomètres de la côte, et même si ses talents de navigateur étaient fort limités, il ne lui serait pas très difficile de gagner celle-ci en gardant le cap à l'ouest. Le ciel était couvert, mais la mer était d'huile, comme pour se faire pardonner la tempête et la folie de la nuit. Harrod trouva une corde, bloqua le volant, se bricola une tente de fortune avec une toile goudronnée et s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était à moins de 3 kilomètres de la côte et n'avait plus d'essence. Il lui avait fallu 1 heure et demie pour faire 28 kilomètres. Il mit 8 heures pour franchir les 3 derniers, et il ne serait sans doute jamais arrivé à destination si un marin-pêcheur ne l'avait pas aperçu et n'était pas venu à sa rencontre. Le marin géorgien le fit monter à son bord, lui offrit de l'eau, de la nourriture, de la crème solaire et assez de carburant pour gagner la côte. Puis il suivit le chalutier, louvoyant entre des îles et des pointes boisées qui ne devaient guère avoir changé durant les 3 derniers siècles, pour finalement jeter la mare dans un petit port, près d'un trou perdu du nom de Saint Mary's. Il découvrit qu'il était à l'extrême sud de la Géorgie, près d'un delta séparant cet état de la Floride. Harrod se fit passer pour un touriste égaré ayant loué un bateau près de Hilton Head. Les gens du coin, qui avaient peine à croire que quelqu'un puisse se perdre à ce point, semblait néanmoins penser qu'il en était capable. Dans un esprit de rapprochement entre côte est et côte ouest, il invita ses sauveteurs, les propriétaires de la marina et 5 badauds, au bar le plus proche, un infâme troquet situé près de la route du parc national Santa Maria, où il dépensa 280 dollars pour leur témoigner sa reconnaissance. Les Pecknot buvaient toujours à sa santé lorsqu'il persuada Star, la fille du barman, de le conduire à Jacksonville. Il n'était que 7h30 du soir, et la nuit ne tomberait que dans une bonne heure, mais une fois qu'ils furent arrivés à destination, Star décida qu'il était trop tard pour qu'elle refasse les 50 kilomètres de route jusqu'à Saint Mary's, et parla de trouver une chambre dans un motel, à Jacksonville Beach ou à Pontevedra. Star approchait la quarantaine, et poussait l'extensibilité de son pantalon en polyester au-delà de ce que Harrod aurait cru possible. Il lui donna 50 dollars, lui dit de passer le voir la prochaine fois qu'elle irait à Hollywood, et se fit déposer près du stand d'United Airlines à l'aéroport international de Jacksonville. Il lui restait presque 4 000 dollars dans son portefeuille. Harrod détestait voyager sans argent de poche, et personne ne lui avait dit qu'il n'y aurait rien à acheter sur l'île, mais il se paya un billet de première avec une de ses cartes de crédit. Il somnola durant tout le trajet Jacksonville-Atlanta, mais une fois que l'avion eut repris son vol vers Los Angeles, il vit que l'hôtesse qui lui apportait sa vodka et son déjeuner était persuadée qu'il s'était trompé de classe. Il baissa les yeux, renifla, et comprit son attitude. Le sang versé la nuit précédente n'avait guère taché sa veste de soie Giorgio Armani, mais elle empestait la fumée, l'essence et le poisson. Son pantalon de toile Sar Giorgio et ses mocassins en crocodile polo étaient carrément dégueulasses. Mais Harrod n'appréciait guère de se voir traité ainsi par une connasse d'hôtesse de l'air. Il avait payé son billet de première et n'aimait pas payer pour rien. Il jeta un coup d'œil vers les toilettes, elles étaient vides. La plupart des autres passagers de première, une douzaine en tout, somnolaient ou lisaient. Harrod attira l'attention de l'hôtesse blonde et hautaine. « Oh, mademoiselle !» Lorsqu'elle s'approcha de lui, il détailla ses cheveux teints, son visage lourdement fardé, son mascara mal appliqué. Il y avait des taches de rose à lèvres sur ses incisives.
« Oui, monsieur. »
Impossible de se méprendre sur la condescendance de sa voix. Harrod la regarda sans rien dire pendant quelques secondes.
« Rien, »
répondit-il finalement.
« Rien. »
Il arriva à LAX dans la matinée du mercredi, mais il lui fallut 3 jours pour rentrer chez lui. Par prudence, il loua une voiture et alla jusqu'à Laguna Beach, où se trouvait une des villas de Tari Easton. Il y avait séjourné à quelques reprises quand elle était entre deux amants. Harrod savait que Tari se trouvait en Italie pour tourner un western spaghetti féministe, mais la clé était toujours cachée dans le troisième pot de rhododendron. La maison, décorée dans un style pseudo-africain, avait besoin d'être aérée, mais il y avait de la bière anglaise dans le frigo et des draps de soie propres sur le matelas aquatique. Harrod dormit durant presque toute la journée, regarda des vieux films de Tari sur le magnétoscope durant la soirée et sortit vers minuit pour aller chercher des plats chez un traiteur chinois. Le jeudi, il chaussa des lunettes noires et se coiffa d'un chapeau colonial appartenant à un petit copain de Tari, puis alla jeter un coup d'œil à sa maison. Tout paraissait normal, mais il retourna à Laguna Beach le soir venu. Les journaux du jeudi contenaient un entrefilet consacré à C. Arnold Barent, le milliardaire reclus, décédé d'une crise cardiaque dans sa propriété de Palm Springs. Son corps avait été incinéré, et la branche européenne de sa famille comptait organiser une cérémonie funèbre dans l'intimité. 4 présidents américains en vie avaient envoyé leurs condoléances, et le journaliste s'attardait sur les nombreuses entreprises philanthropiques de Barent, avant de s'interroger sur l'avenir de son empire financier. Harrod secoua la tête. Aucune mention du yacht, de l'île, de Kepler ou du révérend Jimmy Wayne Sutter. Leur notice nécrologique apparaîtrait sûrement dans les prochains jours, comme des fleurs à l'éclosion tardive. Quelqu'un cherchait à étouffer l'affaire. Des politiciens embarrassés? Les larbins du trio? Une version européenne de l'Island Club? Harrod ne voulait pas le savoir et ne souhaitait qu'une chose, qu'on lui foute la paix. Le vendredi, il passa la journée à surveiller sa maison, en s'efforçant de ne pas se faire repérer par les flics de Beverly Hills. Tout semblait normal. Il se sentait bien. Pour la première fois depuis plusieurs années, il avait l'impression de pouvoir faire ce qu'il voulait, sans courir le risque de recevoir une tonne de merde sur la tête au premier faux mouvement. Le samedi, vers 10 heures du matin, il entra dans sa propriété, salua son satyre, embrassa la bonne espagnole et dit à la cuisinière qu'elle aurait quartier libre dès qu'elle lui aurait préparé un brunch. Il téléphona au directeur du studio chez lui, appela Shu Williams pour savoir où en était le projet de traite des blanches. On remontait le film pour le débarrasser d'une douzaine de minutes qui avait fait chier les spectateurs des avant-premières, appela 7 contacts essentiels pour leur faire savoir qu'il était revenu en ville et qu'il bossait toujours, et accepta un appel de Tom Maguire, son avocat. Harrod lui confirma qu'il allait s'installer dans la maison de Willie, et qu'il souhaitait conserver le dispositif de sécurité. Tom pouvait-il lui recommander une bonne secrétaire? Maguire n'arrivait pas à croire que Harrod avait viré Maria Chen après toutes ces années.
« Même les plus futés commencent à s'accrocher quand on les garde trop longtemps.
J'ai dû la saquer avant qu'elle commence à repriser mes chaussettes et à coudre son nom sur mes slips. Où est-elle? Elle est retournée à Hong Kong? Je n'en sais rien et j'en ai rien à foutre. Appelle-moi si tu connais quelqu'un qui maîtrise la sténo et qui suce bien. Il raccrocha, resta assis un long moment dans sa salle de projection, puis alla s'installer dans son jacuzzi. Nu dans l'eau agréablement chaude, Harold envisagea d'aller faire quelques brasses dans la piscine, puis ferma les yeux et commença à somnoler. Il crut entendre claquer les talons de Maria Chen qui lui apportait son courrier. Il se redressa, attrapa une cigarette dans le paquet posé près de sa vodka bien tassée, l'alluma, et offrit son corps au jet d'eau chaude, laissa ses muscles se détendre. « Ce n'est pas si terrible, il suffit de penser à autre chose. » Il était sur le point de s'endormir et de se brûler les doigts à la cigarette lorsqu'il entendit des talons hauts claquer sur le carrelage. Il ouvrit les yeux, ficha la cigarette entre ses lèvres et leva les bras, prêt à bondir si nécessaire. Son peignoir orange n'était qu'à 2 mètres de là. L'espace d'une seconde, il ne reconnut pas la jeune femme séduisante vêtue d'une robe blanche toute simple qui venait d'entrer, son courrier à la main, puis il vit des yeux de nymphette dans un visage de missionnaire, une moue boudeuse à la Presley et un corps de mannequin.
« Sheila ! Putain, tu m'as fait peur !»«
Je vous ai apporté votre courrier, » dit Sheila Barrington. « Je ne savais pas que vous étiez abonné au National Geographic, vous aussi. »
« Bon Dieu, je voulais t'appeler, » s'empressa de dire Harold, « pour m'expliquer et m'excuser au sujet de cette horrible histoire de l'hiver dernier. »
Toujours mal à l'aise, il envisagea de l'utiliser. Non, il avait décidé de prendre un nouveau départ. Autant se dispenser de cette merde pour le moment.
« Ce n'est pas grave. »
La voix de Sheila avait toujours été douce, rêveuse, mais elle paraissait maintenant encore plus somnolente. Harold se demanda si la pauvre mormone avait découvert la drogue durant sa traversée du désert.
« Je ne suis plus fâchée, » dit-elle distraitement. « Le Seigneur m'a aidé à surmonter cette épreuve. »«
Génial !» dit Harold en chassant des cendres de son torse. « Et tu avais foutrement raison de dire que Traite des Blanches n'était pas un film pour toi. C'est une merde infâme, un truc à proscrire pour une fille de ta classe. Mais je parlais à Shaw Williams ce matin... Et il travaille sur un projet pour Orion, qui te conviendra à merveille. D'après lui, Bob Redford et un jeuneau du nom de Tom Cruise ont accepté de tourner un remake de ce vieux...
« Voilà votre National Geographic »,
coupa Sheila en lui tendant la revue et une pile d'enveloppes. Harold remit la cigarette à sa bouche et attrapa le courrier pour ne pas le mouiller. Le pistolet en argent qui apparut soudain dans la main de Sheila était si petit que c'était sûrement un jouet. Même ses détonations semblaient issues d'un jouet. Un pistolet à amorce de gamin dont les échos résonnaient sur le carrelage.
Hé !
Harold contempla les 5 petits trous qui lui criblaient le torse et essaya de les chasser d'un geste de la main. Il leva les yeux vers Sheila Barrington, bouche bée, et sa cigarette fut emportée par le tourbillon du jacuzzi.
« Oh, merde !»
Tony Harold s'adossa doucement à la céramique, sentit ses doigts glisser, ses lourdes paupières se fermer, son visage couler lentement dans les eaux agitées. Le visage dénué de toute expression, Sheila Barrington passa les 10 minutes suivantes à regarder l'eau bouillonnante virée au rose, puis à l'écarlate, retrouvant sa transparence à mesure que les eaux usées s'évacuaient, pour laisser la place à l'eau chaude amenée par les jets. Puis elle fit demi-tour et s'éloigna lentement, la tête haute, le corps bien droit, faisant claquer ses talons sur le carrelage. Elle éteignit le plafonnier en sortant. La pénombre régnait dans la pièce au volet clos, mais quelques rayons de soleil se reflétaient sur le jacuzzi, projetant des taches de lumière sur le mur en stuc blanc qui ressemblait à un écran de cinéma lorsque le film est fini et que le projecteur traverse de son faisceau une pellicule vierge.